Alors on avance encore ce matin dans le livre de Daniel, si vous voulez prendre Daniel 10, chapitre 10, et on va lire les versets 1 à 21. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel. Je levai les yeux, je regardai et voici. Il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Donc Daniel est maintenant âgé, pourrait dire, j'ai pas envie de dire très âgé, mais il est âgé. Il est âgé, c'est un vieil homme maintenant. Il est arrivé à la cour de Babylone comme un jeune homme plein de force, peut-être dans l'adolescence. Et là, il est à la troisième année du règne de Cyrus. Ça veut dire que, eh bien, voilà, il y a eu du temps qui est passé. Et ça veut dire aussi qu'il n'est pas reparti avec les Juifs qui avaient reçu l'autorisation de retourner à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Daniel a lu la promesse. Vous vous souvenez, hein, il a lu 70 ans et puis ce sera le retour. Il l'a lu, il l'a comprise, mais le jour où c'est arrivé, il n'est pas reparti avec eux, il est resté à Babylone. Alors pourquoi? Est-ce qu'il s'estimait trop âgé pour repartir? Voilà. Est-ce qu'il s'estimait peut-être plus utile à Babylone? Je ne sais pas. Qui sait? On ne sait pas. Et Daniel décide de s'humilier devant son Seigneur. Il décide de jeûner, de prier, Peut-être a-t-il entendu que la reconstruction de Jérusalem a des difficultés. Hein, elle s'est arrêtée pendant un temps avec toutes les attaques qu'il y a eu. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et j'aimerais vous parler ce matin de la vision de Dieu. Quelle est notre vision de Dieu? Non pas vision dans le sens de voir une apparition de Dieu, mais vision dans le sens de notre perception de Dieu. Quelle est notre perception de Dieu? Quelle est finalement notre connaissance de Dieu? Quelle est notre vision de sa personne? On vient de voir presque toute la vie de Daniel à Babylone. Et dès les premières pages du livre, on voit que c'était un homme qui était résolu. Ensuite, on voit que c'était un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Et la valeur qu'il avait pour ce moment avec Dieu, c'était plus précieux que tout. Il était prêt même à mourir plutôt que de ne pas prier son Dieu, que de ne pas avoir cette relation dans la prière. Et pour introduire notre sujet ce matin, on doit prendre conscience que notre vision de Dieu, elle est à la mesure de notre relation avec Dieu, de notre relation et notamment dans la prière. Au verset 5, on voit Daniel qui va lever les yeux et Dieu va se révéler à lui comme jamais il ne l'avait vu auparavant. Mais comment en est-il arrivé là, à voir cette vision de Dieu ? Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut se révéler de cette manière-là à une personne comme ça, alors qu'il ne le connaît pas, c'est possible. Dieu fait ce qu'il veut. Mais néanmoins, on voit quand même ici, dans la vie de Daniel, comme une progression. Il semble qu'il y ait comme une progression de sa vision des choses célestes. Daniel est conduit vers une connaissance, vers une révélation qui progresse, qui augmente. Regardez chapitre 7. Premier verset du chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Ici, il a un songe, donc comme un rêve. Donc, il est sur sa couche, il semble qu'il est endormi. Il est endormi et dans son sommeil, il a une vision. Il voit clairement des choses, il entend des choses. Et il a même une vision de Dieu, puisqu'on voit plus tard qu'il va voir l'Ancien des Jours. Donc, il a une vision de Dieu. Daniel se réveille et c'est clair, c'est précis dans son esprit. Il sait qu'il vient d'être transporté en songe dans l'au-delà et qu'il a vu cette vision. Il était dans la réalité immatérielle du ciel. Chapitre 8, premier verset et deuxième verset. La troisième année du règne de Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment lorsque j'eus cette vision. Il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Ici, il n'est pas dit qu'il était sur sa couche, il n'est pas dit qu'il a eu un songe, il est dit simplement qu'il a une vision. Alors, est-ce que Daniel, là, a été d'un seul coup transporté et il s'est vu ailleurs, un peu comme Pierre. Vous savez, Pierre, il est monté, il était en haut, et là, il était pris d'une extase, et puis il a vu cette nappe qui descendue du ciel. De la même manière, Daniel a été transporté, il me semblait que j'étais à Suse, là-bas. Et dans sa vision, un ange reçoit l'ordre de lui expliquer ce qu'il voit. Et cet ange, c'est Gabriel qui vient. Et Daniel reçoit donc les explications. Il se voit ailleurs en sa présence. Et c'est troublant parce que Daniel est éveillé, il voit ces choses. Une vision de lui ailleurs. Et puis regardez chapitre 9. On avance. On va regarder les versets 21 et 22, chapitre 9, 21 et 22. Je parlais encore dans ma prière. Daniel est en train de prier quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ici, Daniel n'est pas en train de prier. Pardon, en train de dormir. Il est en train de prier. Donc, il est pleinement éveillé, là. Daniel n'a pas une vision lointaine de l'ange Gabriel, mais c'est l'ange Gabriel qui vient dans sa chambre. L'ange qui est là, avec lui, le ciel est entré dans sa chambre. Daniel pouvait entendre, toucher, j'imagine, l'ange, même s'il avait voulu. Et il y a une progression. Au départ, des choses lointaines, en songe, en vision, et finalement, un ange qui est carrément dans sa chambre. Et regardez maintenant chapitre 10, 4 à 5, ce qu'on vient de lire. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux. Daniel est ici, dans la réalité. Il se balade après, si je peux dire, après 21 jours d'humiliation et de jeûne. Il est au bord du fleuve Hiddekel. Et là, il lève les yeux et il voit et il entend non plus un ange, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors, on va développer ce point un peu plus loin sur la personne de Dieu. Daniel voit Dieu lui-même. Il le voit de ses yeux, il l'entend de ses oreilles. La personne divine est devant lui. Et il y a une progression, une révélation qui avance au départ d'une manière un peu lointaine et puis après, finalement, c'est une vision réelle, vivante et qui est là devant lui. Qu'est-ce qu'on sait de la piété de Daniel ? Donc, je l'ai dit, on sait que c'était un homme de prière, un homme qui cherchait Dieu, un homme qui passait du temps avec le Seigneur. Sa relation, elle n'était pas lointaine. Il avait une relation proche. Sans avoir encore vu ni entendu Jésus-Christ, Daniel était pourtant déjà en train de mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ qu'il a données dans les évangiles. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et Dieu te voit. Ton père qui est là dans le lieu secret. Daniel priait, Daniel avait de l'amour pour son Dieu. Il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne certaines choses, l'Esprit lui avait déjà enseigné. Si bien que la vision de Daniel augmente progressivement. Et jusqu'à voir le Seigneur lui-même. Et il faut comprendre que la prière, c'est le lien le plus intime que l'on a avec le Seigneur. C'est par la prière qu'on entre dans une communion d'esprit, une communion spirituelle. C'est par la prière qu'il y a l'adoration par l'esprit. Dans la prière, c'est notre cœur qui vient toucher le cœur de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu au travers des Écritures, mais il y a la connaissance de Dieu dans cette relation de prière qu'on développe avec lui. Et les deux vont ensemble. Dieu nous parle, nous parlons, mais aussi on reçoit dans la prière, dans la communion que l'on a avec lui. Et il ne faut pas que notre prière se soit bâclée. Ce soit un temps qui est bâclé. On a tous des activités. On a tous pour la plupart des plannings qui sont chargés, plein de choses à faire. On est fatigué parfois de notre journée de travail. Mais on peut bloquer des temps, des moments où c'est pour Dieu. Là, c'est pour Dieu. Que personne ne dise que c'est impossible. On sait bloquer du temps pour se détendre un peu. On sait bloquer un peu de temps en se disant, bon alors là, hop, je m'ouvre une petite fenêtre, un petit peu de loisir, un petit peu de plaisir, je ne sais pas. Ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire pour vous détendre. Bloquons du temps pour être avec Dieu, tout seul avec Dieu. C'est une condition pour parvenir à une vision, une révélation plus grande de Dieu. Et notre Dieu, il est souvent à nos yeux, à la mesure de notre vie de prière, de notre vie intime avec lui. On peut dire parfois, mais où est Dieu ? Que fait Dieu ? Pourquoi Dieu n'agit-il pas ? Parfois, on doute de son amour. On doute de sa bonté. Ou on doute de la prière. La prière, je ne suis pas sûr vraiment que c'est vraiment, vraiment efficace. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est quelle est ma vie de prière? Quelle est ma relation avec Dieu? Parce que ça détermine grandement ma vision de Dieu. Daniel, par sa vie de prière, par sa vie intime avec le Seigneur, est arrivé à une révélation plus grande. Et si on prie, quelle va être notre vision de Dieu? Le texte nous le dit. D'abord, premièrement, la vision d'un grand Dieu. Si on garde une vie de prière, une vie d'intimité avec le Seigneur, on aura la vision d'un grand Dieu. Regardez verset 4, on va relire ensemble. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, je fus décomposé, je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel a cette vision devant lui, il n'est pas en train de dormir là, non, il est face au fleuve, il lève les yeux, et qu'est-ce qu'il voit au-dessus? Il voit cet homme, vêtu de lin. Daniel ne rêve pas, il est face à ce qu'on appelle, on l'a appelé une théophanie, une apparition de Dieu. Il voit Dieu dans toute sa gloire. Comment on sait que c'est une apparition de Dieu? C'est que cet homme que Daniel voit ressemble à l'homme vraiment que Jean a vu dans la vision au niveau de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Regardez Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 12. Donc c'est Jean ici. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jean ici a une vision de Christ, de Jésus-Christ dans la gloire. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et quand on compare ces deux hommes, celle de la vision de Daniel, celle de la vision de Jean, ils ont les mêmes caractéristiques glorieuses. Aucun ange, même parmi les plus beaux et les plus magnifiques que nous décrit la parole de Dieu, n'est décrit comme sont décrits ces deux hommes, ces deux fils d'hommes. C'est le même homme. Son visage brille comme le soleil dans sa force. Ses yeux sont une flamme de feu. Ça veut dire qu'il perce de son regard celui qu'il regarde. Ses bras et ses pieds sont comme de l'airain poli, de l'airain ardent. Sa voix est comme le bruit d'une multitude ou comme le bruit de grandes eaux. Et c'est certainement le son de la voix qu'ont entendu les hommes. C'était comme un tonnerre, comme quelque chose qui les a fait trembler. Les hommes n'ont pas vu la vision qui était avec Daniel, mais ils ont entendu ce bruit, ils sont allés se cacher de peur. Et maintenant, Daniel est tout seul devant cette vision. Il sent ses jambes qui commencent à chanceler comme ça. Il blêmit, il est décomposé, il tombe sur le sol, frappé d'étourdissement, et il est carrément le visage allongé dans la poussière, sur le sol. Il n'ose plus regarder celui qu'il vient de voir. Et Daniel n'est pas un petit jeune dans son expérience de Dieu. Daniel est un homme de Dieu, rompu de la communion avec Dieu, de la prière. C'est quelqu'un qui est profond, qui est éclairé. Et pourtant, face à son Dieu, il veut disparaître. Il veut s'effacer. Il est pétrifié devant cette nouvelle vision de Dieu. Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu, nous? Par rapport à une personne comme Daniel, parfois on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas des enfants dans la cour, quoi, à côté de Daniel? Mais certainement, cette vision de Dieu, elle n'est pas que pour Daniel. Dieu veut que nous le connaissions, il veut se révéler à notre âme. Il veut que nous le connaissions avec justesse, avec crainte. Il veut qu'on ait la vision d'un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Et on ne parle pas simplement de voir Jésus apparaître dans sa chambre. Ce n'est pas ça la question. On parle d'avoir une vision juste de la personne de Jésus-Christ. Parce que nos yeux sont fixés sur la terre, parce que nos yeux sont fixés sur nos problèmes, sur parfois nos souffrances, parce que nos yeux sont en bas en fait, eh bien on perd une vision juste de la personne de Jésus-Christ. Dieu veut que nous le connaissions. Il veut qu'on lève les yeux vers le ciel et qu'on ait une perception juste de sa personne, un Dieu glorieux qui habite dans le ciel. Dieu veut qu'on le connaisse pour ce qu'il est réellement, un Dieu grand, puissant et glorieux. Et cette connaissance, elle vient par les Écritures, mais elle vient aussi par la relation et l'intimité que l'on développe petit à petit dans notre vie avec le Seigneur. Le Fils de Dieu, comme ça, dans la gloire, ne s'est pas approché de tout le monde, de tous les Juifs, mais il s'est approché ici d'un Juif qui avait une communion avec le Seigneur. Et j'aimerais poser la question, à quoi ressemble notre vie de prière aujourd'hui? Est-ce qu'on développe cette relation avec le Seigneur? Ou tout simplement, est-ce qu'on a une intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'on a simplement une intimité vraiment avec le Seigneur, jour après jour, semaine après semaine? Ça ne veut pas dire qu'il faille jeûner, s'humilier pendant 21 jours comme Daniel l'a fait. On a un homme qui a vécu des décennies de relations avec le Seigneur, qui a sa propre relation avec le Seigneur. Peut-être simplement pourrions-nous commencer par avoir une vie de prière régulière. Régulière. Peut-être simplement pourrions-nous commencer par dire, je vais bloquer une heure, une demi-heure, pour passer avec le Seigneur chaque semaine. Mais vraiment, pas 5 minutes, mais vraiment un temps proche. Il n'y a rien de plus stimulant dans la vie que pour un chrétien que d'avoir cette communion avec le Seigneur. On en ressort vivifié, revigoré, plein de joie. Si on le fait, on aura non seulement la vision d'un grand Dieu tel qu'il est, on va le voir tel qu'il est, mais aussi on aura la vision d'un Dieu qui exauce. C'est mon deuxième point. Un Dieu qui exauce. Avoir la vision d'un Dieu qui exauce. Quelle est notre vision actuelle de Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu comme étant celui qui exauce nos prières? Peut-être notre vie de prière et moribonde parce qu'on ne voit pas Dieu comme étant le Dieu qui exauce. Et on ne prie pas parce qu'on n'y croit pas. Mais peut-être qu'on ne le voit pas comme le Dieu qui exauce parce que notre prière est moribonde. On devrait peut-être retourner la chose dans l'autre sens. Parce qu'on ne prie pas, alors, eh bien, on ne le voit pas comme le Dieu qui exauce. Daniel connaissait son Dieu. En priant 3 fois par jour, tous les jours, il avait vraiment une connaissance de la prière. Il savait que Dieu exauce. C'est pour ça qu'il s'est mis à prier, qu'il s'est humilié pendant 21 jours consécutifs. Daniel croyait à la prière et à l'exaucement. Et Dieu veut qu'on croie aussi à cela. Regardez versets 10 et 11. Daniel 10, 10 et 11. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. J'aimerais juste faire une parenthèse ici avant de continuer dans le sujet de la prière. Ici, il y a une main qui touche Daniel pour le fortifier, le relever. Daniel était allongé de tout son long sur la terre. Il n'osait pas se relever. Et là, cette main qui vient le toucher, il commence à se relever. À qui appartient cette main ? La question, est-ce que c'est la main du Seigneur lui-même, la main qui vient de la vision, ou bien c'est la main d'un ange qui est aussi là, présent dans la scène ? Je pense que c'est la main d'un ange. Il y a une autre personne, ils sont deux ici. Il y a la vision qui est au-dessus du fleuve de Jésus-Christ, et puis il y a un ange qui est là, avec lui, en face de lui. Pourquoi je le précise ? C'est important parce que quand on lit le texte, on peut faire des confusions et puis arriver à une mauvaise interprétation. Regardez, c'est confirmé le fait qu'il y ait deux personnes à la fin du texte. On va prendre Daniel 12 et regardez à la fin, parce que la révélation continue. L'ange est en train de parler avec Daniel, chapitre 11, chapitre 12. Et regardez à la fin du chapitre 12, versets 4 à 8. Il dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici deux autres hommes, intéressant, se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre en delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera-ce la fin de ces prodiges ? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit. En fait, il reprend sa conversation ici avec l'ange qui est en train de lui expliquer les choses. Et il différencie celui qui est là devant lui, au-dessus des eaux, de celui avec qui il est en train de parler d'une manière libre. Donc, il y a un ange ici et Daniel est en train de recevoir l'explication de l'ange. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans le texte, il dit « Mais je peux rien faire. » Il parle à l'ange, mais « Je peux rien faire. Je suis troublé par la vision. » Daniel reçoit l'explication d'un ange alors qu'il est face à Jésus-Christ. Et maintenant, regardez Daniel 10, verset 12. Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et on comprend ici une vérité importante, c'est que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, ses paroles ont été entendues. Ses paroles ont été entendues. Dieu entend nos prières. On se dit parfois, mais Dieu n'entend pas. Dieu n'agit pas. Rien. On se dit peut-être, mais est-ce que ça dépasse le plafond ? C'est faux. Dieu entend nos prières. Et il les entend dès le premier jour où on commence à prier. C'est encourageant, non? Dès le premier jour où on commence à prier, on se dit, mais ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années, peut-être, qu'on prie pour quelque chose. Mais Dieu a entendu dès le premier jour et il entend chacune de nos prières. Tes paroles ont été entendues. Et l'ange a dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Et Dieu non seulement entend, mais Dieu agit en fonction de ce que nous demandons. Et c'est parce que nous demandons alors que Dieu fait quelque chose. Dieu a envoyé cet ange. Si Daniel n'avait pas prié, ben l'ange n'aurait pas bougé. Mais parce qu'il a prié, alors l'ange a fait une démarche. Il était en train d'agir. Daniel ne voyait rien. Au début de ses 21 jours, il ne voyait rien. Il n'entendait rien, il ne ressentait rien, mais ça bougeait dans le ciel. Il y a quelque chose qui se passait déjà dans le ciel. Et il faut qu'on ait la vision d'un Dieu qui exauce. Dieu exauce nos prières. Ce n'est pas vain. On n'est pas en train de parler tout seul en l'air. Dieu exauce nos prières. Il entend et il agit déjà aujourd'hui, depuis le jour où on a commencé à prier. Versets 13 et 14. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et on trouve ici la réponse au fait que certains de nos exaucements sont différés. On voit la réponse, une des réponses. Nous, on l'attend pour le jour même, on l'attend pour le lendemain, pour la semaine qui suit, mais l'exaucement tarde. Daniel a prié pendant 3 semaines, pendant 21 jours, et on voit que le chef du royaume de Perse a résisté 21 jours à l'ange qui était envoyé vers Daniel. Donc l'ange, c'était la réponse pour Daniel, mais il n'avait pas la liberté de venir jusque Daniel. Alors, qui est ce chef du royaume de Perse? On voit ici qu'il y a un combat, il y a une lutte dans le ciel. On n'est pas dans la dimension terrestre ici, mais on est dans la dimension céleste. Et il y a un combat vraiment en ce moment-là dans le ciel. Un combat des anges de Dieu avec les anges mauvais, les démons, qui ont quitté Dieu, qui ont rejeté Dieu et qui sont partis dans une autre direction. L'apôtre Paul dit, il parle des dominations, il parle des autorités, il parle des princes de ce monde de ténèbres. En écrivant ce verset, je me suis dit, prince de ce monde de ténèbres, c'est les ténèbres. Il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a cette opposition aux anges de Dieu qui sont de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies démoniaques qui sont dans l'au-delà et qui luttent, pourquoi ? Pour une domination mondiale du diable. Pour une domination mondiale du diable par le mal, par la violence, par le péché sous toutes ses formes, que le péché puisse vraiment bien s'exprimer, se répandre. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les anges de Dieu qui luttent pour le bien, pour que le bien triomphe, pour que l'Église avance, pour que Jésus-Christ soit vu, pour que les âmes se convertissent. Les anges travaillent, luttent de l'autre côté. Et quand on prie pour des choses qui sont dans la volonté de Dieu, et on connaît la volonté de Dieu par les Écritures, alors, immédiatement, il y a un combat dans le ciel. Lorsqu'on prie que l'Église soit pure, lorsqu'on prie qu'il y ait la paix dans l'Église, lorsqu'on prie que les âmes soient touchées, que les cœurs se convertissent, que la lumière brille, que le témoignage touche, à ce moment-là, il y a une lutte, il y a un combat. Dieu entend, Dieu agit par le biais des anges, mais l'ennemi de Dieu s'oppose de toutes ses forces à l'exaucement. Il veut freiner, il veut empêcher et si possible, éviter carrément l'exaucement. Et lorsque nous prions quelque chose que nous savons être dans la volonté de Dieu, simplement parce que c'est écrit, alors il faut tenir. Il faut tenir bon. Il faut persévérer. Parce qu'il y a ce combat dans le ciel. Daniel a prié 21 jours. Le 22e jour, à ce moment-là, l'ange a eu la liberté de venir, d'être l'exaucement pour Daniel. Sa lutte, ici, c'était une lutte de 3 semaines. 3 semaines de lutte. Et Daniel obtint l'exaucement de sa prière. Il faut avoir une vision de ce Dieu qui exauce nos prières. Il faut peut-être simplement de la persévérance. Peut-être il faut aussi de la lutte. Est-ce que vous avez déjà lutté pour quelque chose dans la prière? Vous savez, la lutte, ça nous pousse à la supplication. Quand on lutte, à un moment, c'est « Ah, Seigneur !» Et on supplie, c'est notre âme qui crie vers Dieu. Il y a une lutte. Daniel a lutté, il s'est humilié pendant 21 jours. Et il a reçu l'exaucement. Et parfois, eh bien, on remet. Et parfois, c'est une lutte. Il y a une lutte, l'esprit nous pousse à lutter pour gagner. Il faut avoir la vision d'un Dieu qui exauce. Et j'aimerais terminer courtement avec un troisième point. La vision d'un Dieu qui est proche. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est clair, c'est simple. Lorsqu'on prie, Dieu s'approche de nous. Et on découvre que Dieu, approché, proche, est proche de nous. Dieu est un Dieu qui est proche. Lorsque Daniel a vu Jésus-Christ, là, au-dessus du fleuve, il était pétrifié devant l'apparition du Seigneur. Pétrifié. Regardez versets 15 à 17. « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. » Et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi. J'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant les forces me manquent. Je n'ai plus de souffle. » Et on voit ici Daniel, il a besoin d'être aidé pour parler. Il n'arrive plus à parler. Il faut que quelqu'un le fortifie, rien que pour qu'il y ait des mots qui sortent de sa bouche. Vous savez, des fois, quand on a peur, il n'y a plus rien qui sort. Hein. On n'arrive plus à parler. Daniel n'a jamais eu une telle vision de la personne de Dieu. Au chapitre précédent, on a lu, l'ange vient dans sa chambre avec lui. Il parle avec lui et Daniel s'entretint avec lui. Il y a une conversation là. Il est en train de parler. Mais là, ce n'est pas pareil. Là, il est devant la vision de Dieu. Alors, il est coupé. Il est bloqué. Il en perd tous ses moyens, son souffle. Il est décomposé. Comment pourrais-je parler? Alors, versets 18 et 19. « Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Dieu nous est proche. Il veut qu'on ait la vision d'un grand Dieu, parce qu'il est un grand Dieu. Il est un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Mais il est aussi un Dieu qui est proche. Si il nous apparaissait là, aujourd'hui, dans cette salle, on glisserait nos chaises et on se retrouverait comme Daniel sur le carrelage, par peur. On se disait, mais comment puis-je soutenir des yeux comme une flamme de feu qui me regarde? Je ne peux pas soutenir ça, je veux m'effacer. Mais Dieu veut qu'on le connaisse aussi comme un Dieu qui est proche. il n'est pas froid et autoritaire. Il est exigeant, mais pas autoritaire. Il est aussi sensible et compréhensif de notre faiblesse humaine, de notre petitesse humaine. Il nous dit, ne crains rien, homme, femme, bien-aimé. Courage, courage. D'abord, une parole apaisante. Ne crains rien. Quelles que puissent être nos craintes, et on en a, des craintes cachées, elles doivent disparaître en sa présence. En sa présence, on ne craint rien avec le Seigneur. Une parole aimante, réconfortante. Homme bien-aimé, on pourrait dire femme bien-aimée. Tu es bien-aimé. Vous êtes des bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes aimés de Dieu. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Une parole rassurante. Et pour finir, une parole stimulante. Dieu ne nous veut pas abattus, écrasés, démoralisés, parce qu'il a la puissance de nous tenir debout. Il en a la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, oh, affermis ce que tu fais en nous. Et c'est Dieu qui donne la puissance. Alors il dit, courage, courage, relève-toi, relève-toi. Dieu est proche. Il n'est pas un être insensible et lointain, mais il est proche et aimant. Et quand Daniel va entendre cette parole nourrissante, bienfaisante, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va se relever. Il entend la parole et il se relève. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Voilà, la parole divine, le pain de vie, il a entendu Dieu lui parler, il a entendu cette parole inspirée, il se relève. De là l'importance d'ouvrir nos Bibles. Il faut qu'on ouvre nos Bibles. De là l'importance de venir le dimanche matin écouter la parole de Dieu. Parfois notre âme se dit, oh là là, je ne vais pas bien aujourd'hui, je ne vais pas aller au culte. Mais quand il nous parle, nous reprenons des forces. C'est quand il nous parle. Ce n'est pas en restant chez soi et en n'ouvrant pas la parole de la journée qu'on reprend des forces. Que mon Seigneur parle. Pourquoi ? Parce qu'il va me fortifier. Est-ce qu'on veut se laisser fortifier par lui ? C'est ça la question en fait. Est-ce que je veux me laisser fortifier au moment où je ne vais pas bien ? Si je veux me laisser fortifier, alors je vais aller, je vais écouter, je vais ouvrir. Quand je vous dis ça, je pense à André Touche. Vous vous souvenez d'André Touche ? Donc André Touche, j'ai eu des nouvelles récentes, il va bien. Hein, donc toujours en Angleterre pour sa formation pour le moment, après partir en Papouasie. Et André disait, quand tu ne vas pas bien, cours à l'église. Alors que tout en nous dit « Non, je ne veux pas y aller. » Mais souvenez-vous de ça. Quand vous n'allez pas bien, cours à l'église. C'est là où il faut aller. Parce que Dieu veut te fortifier. Il veut te nourrir. Il veut te relever par sa parole. Alors il faut courir. Courir. Quelle est notre vision de Dieu ? Dieu veut qu'on ait une vision glorieuse de sa personne, la vision d'un grand Dieu. Il veut aussi qu'on ait la vision d'un Dieu qui exauce nos prières. Et il veut qu'on ait la vision d'un Dieu qui est proche. Ça, c'est ce qu'il est dans sa personne. C'est trois choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous tombe. Puis on se réveille le matin, ça y est, on a cette triple vision de Dieu. Non, ça vient dans le fait qu'on développe notre intimité avec le Seigneur. On cherche sa face. Il y a un dialogue dans la prière, dans la lecture. Alors, après, on a cette vision triple du Seigneur. On va s'incliner dans la prière.